faire, etc. Tout ça, il le savait déjà. Et donc, c'est sur ce terrain que, le coup de foudre de Chateaubriand a joué.
Oui, c'est vrai.
Et ensuite, eh bien, il ne pouvait pas être Chateaubriand, il était employé de commerce. Il a vendu du calicot. Voilà pourquoi ça s'appelle calicot.
Est-ce que vous avez l'impression, en quelque façon, que, par exemple, ce travail, je veux dire, qui est pour vous une sorte de travail autobiographique, enfin, sur votre propre avant-mémoire, comme dirait Jean Delay, est-ce que ce travail-là, c'est une sorte de modèle aussi théorique pour le travail que vous pouvez faire sur les journaux de jeunes filles? C'est-à-dire, vous cherchez ce même type de choses, avec les mêmes instruments, avec le même arsenal que celui que vous avez déployé, comme un calicot
Absolument.
Enfin, comment vous voyez les choses? C'est-à-dire, en particulier, par exemple, là, vous rentrez dans un arsenal psychanalytique, etc. Est-ce que c'est ce que...
Bon. Non, c'est exactement le même problème dans un autre milieu, avec un autre type d'écriture. Xavier Edouard, c'est le petit employé parisien. Mes jeunes filles, enfin, bon, les jeunes filles que je vais... dont je suis en train de m'occuper, que je suis en train d'essayer de ressusciter... elles sont toutes des jeunes filles.
Le christianisme, la résurrection des jeunes filles.
Voilà. Elles sont toutes des jeunes filles de la bourgeoisie ou de la bonne société. Mais le problème rhétoriquement, d'une certaine manière, est le même. C'est-à-dire que les enfants et les jeunes filles du 19e siècle écrivaient d'après des modèles qui leur étaient donnés.
Non, c'est...
Ils écrivaient d'après des modèles qui leur étaient donnés, et modèles que nous connaissons, puisqu'ils se présentaient souvent sous forme, il y avait une part des traités d'éducation, et d'autre part des modèles romanesques, des livres qui étaient donnés à lire aux petites filles pour qu'elles s'en inspirent pour tenir leur journal. Il y en a un en particulier dont j'ai découvert, que je ne connaissais pas, qui m'a fait verser des torrents de larmes, qui s'appelle « Le journal de Marguerite » par Mademoiselle Moniaud, publié en 1858, et que, semble-t-il, toutes les petites filles de la seconde moitié du 19e siècle ont lu, puisque dans les journaux de jeunes filles réelles que je trouve, il y a toujours un moment où elles ont lu le journal de Marguerite, où elles versent des torrents de larmes. C'est un peu le journal d'Anne Frank du 19e siècle, dans un genre différent, enfin le modèle auquel on se réfère toujours. Il y a donc des modèles d'écriture, il y a une condition sociale, enfin une condition... social, futur, un choix de vie qui est le choix matrimonial qui est imposé à ces jeunes filles. Elles écrivent leur journal entre 14 ans et le mariage, en général. Je simplifie, hein, il y a des tas de cas. En fait, il y a deux types de journaux. Le journal de première communion à 10-12 ans, qui est un journal qui est commandé. C'est des écritures, on a à peine à croire ça aujourd'hui, où on voit les journaux intimes comme un espace d'intimité que l'adolescence crée contre son milieu. Les journaux du 19e siècle sont obligatoires. Donc, on dit à la petite fille, Julie, tu as fait ton journal ce soir ? Fais ton journal avant de te coucher, etc. Et le journal est donné à la maman et corrigé, pour l'orthographe et pour la vertu. Bon. Et bon, c'est un système d'éducation. Il faut comprendre, ça, on ne comprend rien, que le journal est un instrument pédagogique, un instrument d'éducation, inculqué aux petites filles entre 10 et 12 ans, au moment du dramatique, pour les petites filles, le plus beau moment de leur vie, qui est la première communion, dont elles ne se remettent jamais, enfin dans les journaux. Une fois qu'elles ont le plus beau de la vie derrière elles, à 13 ans, elles sont désillusionnées pour toujours, puisqu'elles n'ont plus, elles ne peuvent plus faire leur première communion, puisqu'elles l'ont déjà faite. Et en général, à 14 ans, elles reprennent un journal intime à leur propre compte, avec les techniques d'écriture qu'on leur a apprises, mais elles sont bon, déjà plus mûres, et elles sont affrontées à un choix. Et donc, ce que j'essaie de voir dans mes analyses de journaux intimes, c'est de voir comment... avec cet instrument qu'on leur a donné, elles essaient de, ou elles n'essaient pas, souvent elles ne le font pas, d'exercer leur liberté. Le problème pour la jeune fille du 19e siècle est de savoir si elle aura une existence individuelle ou si elle n'en aura pas. C'est-à-dire si elle se mariera ou si elle ne se mariera pas, et quel autre sort elle peut envisager, entrer le couvent, le célibat laïque, être vieille fille, il y a toutes sortes d'autres solutions. Comment est-ce que les jeunes filles peuvent se servir de cette... c'est un instrument pour s'exprimer. Donc, en fait, j'ai retrouvé des questions, questions analogues.
Vous parliez de ces journaux qui servent de modèles. Vous avez le sentiment aujourd'hui, par exemple, qu'il y a des modèles du journal intime. Je pense là à Cher Cahier.
Mais bien sûr qu'il y a des modèles du journal
intime. Vous parliez d'Anne Frank. Est-ce que ça serait le dernier modèle massif?
Non, pas du tout. Il y en a des tas de modèles pour les petites filles d'aujourd'hui. Il y a des modèles catholiques. Il y a deux livres dont j'avoue les titres là m'échappent.
Je parlais pas seulement des petites filles, enfin, je parlais de modèles de journaux.
Oui, mais enfin, c'est surtout, il faut dire, c'est surtout les adolescentes qui tiennent des journaux, plus que les adolescents. Mais il y a un prêtre du Havre qui, dans les années 1950, a créé deux journaux archétypes, l'un pour les garçons, l'autre pour les filles, c'est Dany et Anne-Marie, je ne sais plus comment ils s'appellent. Dany ou la joie d'aimer, Anne-Marie ou la joie de je ne sais pas quoi. Bon. Excusez-moi, je suis irrévérencieux, c'est tout à fait. Bon. Je m'excuse, hein, c'est pas. On est forcé de réagir. Donc des espèces de journaux, et ça me semble tout à fait exemplaire d'ailleurs du problème que nous posons ici ce soir, sur un plan non plus littéraire mais très large de société. Comment est-ce que ce prêtre a fait pour créer ces journaux? Il les a créés, d'abord il est parti des journaux réels des adolescents qu'il avait sous la main. Donc il a demandé, Georges, Gustave, tu me prêtes ton journal. Bon. Et il a pris les journaux, donc il explique sa méthode, il a pris donc une dizaine de journaux d'adolescents réels, et autour d'une histoire fictive, il s'est servi de la matière, du style de ces journaux réels, pour faire une sorte de journal synthétique. Et ensuite, c'est publié aux éditions ouvrières, et c'est toujours en vente actuellement, c'en est au 300e mille. Je dirais que sur le plan de la société, c'est peut-être plus important que le retour dans les milieux littéraires à la biographie brève ou à... C'est des phénomènes massifs, hein, gigantesques de séries. Hein, c'est des faits de séries. Hein. Donc, ces deux journaux se vendent toujours actuellement, sont en pleine vente, hein, dans les milieux catholiques. Et on en voit d'ailleurs les effets dans les journaux réels de petites filles d'aujourd'hui, de jeunes filles d'aujourd'hui, que j'ai pu lire dans certaines archives catholiques qui sont conservées. Hein. Donc après, ce faux journal est naturellement trié en fonction d'un modèle. Il devait y avoir dans les journaux réels des choses déviantes, des originalités, toutes sortes de choses qui ont été émondées. Il est redonné, hein, c'est pour que les petites filles chantent sur la même musique. Voilà. Et c'est tout à fait fascinant. Hein. Les vies circulent. Nous mangeons des vies pour faire notre vie. Hein. Nous avons l'impression que nous choisissons le menu, hein, qu'on mange à la carte. Qu'on fait nos vies en petits corans, mais il y a en fait beaucoup de gens qui mangent leur vie au menu, au prix fixe du jour, plat du chef. Bon, enfin, je crois que je suis peut-être en train de m'égarer.
Non, vous vous égarez pas du tout. Mais je.
C'est parce qu'il y a quelque chose, de frappant dans le décalage dans la question qui nous est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une vie? Qui est effectivement une question à la pointe de l'actualité, de la modernité, de la postmodernité, etc., du retour amical à un biographique épuré et qui n'est plus coupable. Hein. Et alors, c'est un très long trajet pour que l'intelligentsia en arrive à réécrire une biographie. Bon, ça, c'est formidable. Et puis, il y a des phénomènes absolument massifs qui, effectivement, sont d'ordre sociologique, et qui sont peut-être décalés par rapport à ça. Voilà.
Non, sûrement, mais enfin, ça m'amène à une question que je voulais vous poser, c'est qu'effectivement, en lisant vos textes sur la biographie, on a le sentiment, sauf peut-être à un moment dans moi aussi, enfin, où vous esquissez une sorte d'autocritique, je veux dire que d'une certaine façon, vous remettez très très rarement en cause, à la différence de cette littérature à laquelle appartient Pierre Michon, vous remettez rarement en cause l'idée même de vie, justement. C'est-à-dire le biographique, enfin, vous dites la biographie est notre idéologie dominante, enfin, on peut difficilement y échapper. Et c'est vrai que vous-même, finalement, vous semblez avoir fait votre deuil d'échapper à l'idéologie de la biographie, à l'unicité d'un sujet, à la plénitude d'un sujet, etc. Même si vous utilisez la psychanalyse, comme vous l'avez montré dans Calico, etc. C'est-à-dire, il y a cette croyance, toujours, chez vous, dans la vie, que, me semble-t-il, par exemple, Michon ne partage pas, et que la littérature ne partage pas de la même façon.
Oui, je suis tout à fait victime de l'illusion biographique, c'est ça que vous voulez
dire. Non, je vous pose la question, parce que vous vous la posez vous-même dans moi aussi.
Oui,
et effectivement, ce n'est pas les gens de jeunes filles qui vont vous détromper.
Je suis partagé parce que je sais que c'est une illusion, mais qu'en même temps, au fond, je dois avoir l'impression que c'est une illusion qui est nécessaire, qui est, je dirais, vitale,
Pour vivre, ouais. Mais pour écrire.
Et oui, il faut vivre. Mais quand on écrit, le problème, c'est que quand on écrit, il y a peut-être une illusion qui consiste à croire que quand on écrit, on échappe totalement, on est en état d'apesanteur, et qu'on échappe totalement. C'est ça, d'ailleurs, que croit peut-être la personne qui écrit. Hein, mais ces nécessités vitales, est-ce que finalement, elles ne restent pas actives, même? Même au fond de l'écriture. Donc je crois que c'est très compliqué, qu'il y a une tension, en fait. Il y a une tension, c'est une tension, et on peut échapper d'aucun des deux côtés. D'un côté, on a la vie figée, stéréotypée, etc., qui est l'horreur, hein, l'horreur absolue. Moi-même, j'ai dit la vie de Calico, les étapes, l'enfance, etc., le discours édifiant, le discours éducatif, etc., donc, et surtout l'unité, l'unification du sujet. Mais de l'autre côté, est-ce qu'on peut aller totalement de l'autre côté ? Non plus. Et en fait, moi, mes études portent sur la vibration entre les deux. Et quand j'essaie, par exemple, de regarder ce problème des innovations, je veux dire, qu'est-ce qu'on change ? Est-ce qu'on peut changer ? Est-ce que quand on change, on ne garde pas en même temps énormément de choses ? Quelle est la marge, finalement, du changement qui est possible ? Hein ? C'est ces questions-là que je me pose.
Alors, oui, justement, enfin, si on prend le cas Pérec, d'une certaine façon, il garde complètement et il fait tout partir dans le collectif. Enfin, dans l'universel.
Oui, qu'est-ce que vous voulez dire?
Non,
mais oui.
je répète ce que j'ai cru comprendre dans... Oui. Bon. Non, je voudrais... Enfin, laissons
Georges Pérec... Je vais peut-être poser un autre
mais
problème.
Moi, je voulais poser une question à la permission, mais oui... Oui,
à propos de Pérec, un autre problème de jeter, est-ce que c'est la même chose ? Est-ce qu'on peut traiter exactement de la même manière biographie et autobiographie ? On a l'air de penser que auto ou hétéro, tout ça, c'est pareil, ça se mélange, d'ailleurs, c'est associé chez Pierre Michon, etc., et tout cela. Bon. Mais est-ce que la situation de quelqu'un qui est au cœur de sa vie, qui est bon, existentiellement unique, etc., est exactement la même que celle du discours qu'on tient sur quelqu'un d'autre ? Et qu'est-ce qui se passera, pour prendre le cas de Pérec, c'est juste une question, il va y avoir des études théoriques à faire extrêmement intéressantes lorsque va paraître la première biographie de Pérec. Il y a une biographie qui est en train d'être écrite par David Bellos sur Pérec, une œuvre gigantesque, visiblement extrêmement bien documentée, et qui doit paraître, donc je fais de la publicité là, pour quand elle paraîtra, et ça va être un objet, il va se créer ainsi un objet, une situation théoriquement extrêmement intéressante, et qui, je crois, d'ailleurs, fera encore mieux ressortir l'originalité du travail d'écriture de Pérec.
Il y aura deux solutions, enfin trois solutions. Soit le biographe a réfléchi sur l'autobiographie pérecienne, comme vous l'avez fait, et il en tient compte et il fait selon, soit il n'en tient pas compte mais consciemment, soit il fait une biographie classique à l'américaine, selon les codes classiques. Il est mort, oui. Un destin.
Toute façon, dans la mesure où il est un biographe, il va saturer. Il va avoir tendance, probablement, à saturer. Donc, son discours, qui sera un discours plein, sera fatalement... Forcément, pas du tout sur le même plan. C'est pas du tout la même chose.
Le genre, presque structurellement, le condamne à faire autre chose que W. Enfin, à faire le contraire de W.
Donc, ça sera très pédagogique.
Ouais. Alors, je voudrais me retourner vers ma gauche pour poser la question dont on parlait à Pierre Michon, qui est justement cette question de la croyance en la vie, j'entends par vie cet objet plein qui était encore d'une certaine façon, enfin je dirais l'objet du demi-Sartre que je décrivais au commencement de ce débat. Est-ce que justement les vies minuscules et cette curieuse façon que vous avez eue de prendre Rimbaud, par exemple, ou Van Gogh, ou Goya, ou Watteau, ne sont pas une façon peut-être de tourner ce problème et de mettre en doute je reprends vie minuscule, enfin le fait de montrer quelqu'un au croisement d'un certain nombre de perpendiculaires, n'est-ce pas une façon de repenser autrement la question de la vie dans son apparente évidence, justement qui est celle des biographes classiques qui expliquent, comme je sais pas, je pense à une biographie dont je me souviens, ce matin-là, Nerval sortait en sifflotant de chez lui.
Pour les biographes classiques, peut-être ceux qui ont fait des biographies d'auteurs, par exemple, mais lorsque des les auteurs ont fait eux-mêmes des biographies de gens qui les précédaient. Je n'ai pas d'exemple à l'esprit, mais enfin, il y en a souvent sous leur plume de trois pages ou de quatre pages. À ce moment-là, ils n'ont pas, eux, certainement l'illusion de ce sujet total qu'ont les biographes de profession. C'est-à-dire qu'il y a vraisemblablement toujours eu des biographies écrites par les auteurs où un certain éclatement du sujet était postulé, non pas manque de cohérence, mais manque de...
Je vous ai compris. Nous vous avons
compris. Non, là, effectivement, non. C'est un problème, mais c'est un problème tellement contemporain, tellement local, qu'on va vous parler de biographies par des biographes. Effectivement, les biographies par des biographes ont toujours, maintenant particulièrement, été des obéit à des fantasmes de cohérence ou de totalité qu'on peut dénoncer à chaque instant. Enfin, je ne sais pas si c'est bien là le... Enfin, c'est pas là ce qui...
Non, mais c'est une question que je posais à Philippe Lejeune, parce que j'ai le sentiment que Philippe Lejeune, effectivement, après avoir lui-même flotté dans moi aussi, enfin, au fond, même quand il analyse admirablement Pérec, finalement, ne va pas pour autant adopter la vision, enfin, la nouvelle pensée éventuelle, par exemple, de la biographie qui est implicite dans ce qu'il analyse par ailleurs. C'est pour ça que je posais la question.
C'est-à-dire, il y a... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse?
Je ne sais pas. Inventer, comme vous, puisque vous analysez chez Pérec l'invention en autobiographie, inventer une nouvelle façon d'écrire sur l'autobiographie. C'était ça que je voulais, marquer. Mais...
Il y a tout de même deux plans. Il y a un discours qui est un discours qui est le mien, qui est un discours descriptif, analytique, des manières d'écrire des gens. Bon, ben, j'essaie de décrire la manière dont ça se passe la plupart du temps, puis je prends des cas novateurs, je les décris aussi, et je n'ai pas à prendre parti, même si dans la fête, si je choisis Pérec, c'est que j'ai tout de même pris parti d'une certaine manière. Bon, quant à ce que je fais pour moi, eh bien, ça c'est un autre problème.
On va y revenir. Je voudrais juste, à propos de choses qui ont été dites, poser une question à Pierre Michon, puisqu'on a évoqué le génie du christianisme, et il me semble que le grand modèle, s'il y en a un, des vies minuscules, c'est probablement Jacques de Voragine. Et de façon générale, enfin, il me semble que le modèle des vies de saints est très important pour justement, enfin bon, la réactivation chez Pierre Michon de ce modèle-là sert à... rebousculer la question de la biographie, mais c'est une question que je voulais poser.
C'est vrai, mais là, pour le coup, ça doit être un peu parodique quand même, parce que c'est pas du tout une... Mais quand même, enfin là, j'écoutais avec attention tout ça, parce que c'est des problèmes, après tout, qui me sont assez lointains, ça. Cette histoire de postulation d'une absence de cohérence d'une vie comme quelque chose qui devrait être dit, enfin... Le fait de devoir dénoncer forcément la cohérence d'une... Je crois que après coup, en tout cas, s'il ne s'agit pas de soi-même, évidemment, pour un autobiographe, dire les étapes de ma vie, c'est idiot. Mais quelqu'un qui, ensuite, fait une sorte de constat, bref, en tout cas, doit dégager une cohérence, même à titre d'hypothèse ou à titre de... pour essayer de donner sens à cette vie-là. Parce que effectivement, c'est pas le porteur de cette vie, c'est pas le vivant de cette vie qui pouvait lui donner sens, même s'il en fantasmait divers sens. Mais peut-être quelqu'un ensuite peut donner un sens comme hypothèse. C'est pour ça que le modèle Voragine est très bien, parce que là, c'était Dieu qui donnait sens. Alors, ça marchait tout seul. Et maintenant, pourquoi pas faire des petites mises en sens, même si c'est des fictions totales.
Non, je parle du modèle Voragine aussi pour parce que par exemple Foucault dans le texte que je citais au départ et qui je crois enfin donc que j'allais dire je ne saurais trop vous conseiller de lire et qui est comme une sorte de description anticipée des vies minuscules qui ce texte qui s'appelle Vie des hommes infâmes j'ignore si vous l'aviez lu ou non en 1977 lors de sa parution Foucault cite à la suite de Pierre Rivière et pour introduire à l'idée de ces vies brèves de criminels dont il va publier un recueil, il cite Vorgine. Finalement, son projet à ce moment-là est directement cette espèce de condensation qu'on a dans Les Vies de Saints, condensation de biographie, m'aurait dit Barthes. Ça m'a frappé parce que j'ai relu ça à cause du débat.
Je n'ai pas relu.
Il cite Vorgine et vous citez Vorgine en exergue de certains de vos textes.
Quand je l'ai lu, je sais qu'il m'a fait beaucoup d'effet et que c'est sans doute une des causes, ça fait partie du faisceau de causes qui m'a fait écrire les vies minuscules, je pense.
Je crois qu'on peut lire aujourd'hui ce texte de Foucault, on enlève deux ou trois mots et on aurait une sorte de description de ce que sont les vies minuscules. C'est pour ça que c'était pour moi une coïncidence très frappante. Et justement à ce propos, je voudrais vous demander d'expliquer. C'est totalement lié à ce qu'on disait précédemment. Je crois justement les réserves sur Foucault que vous avez pu faire récemment, non pas à propos de ce texte, mais à propos de Pierre Rivière concernant la question de la biographie.
Oui, ça c'est une longue histoire.
Oui. Non, c'est une longue histoire, mais c'est l'envers des jeunes filles. C'est pour ça que je.
Je me disais d'ailleurs que peut-être un jour Pierre Michon écrirait un Rivière le fils.
C'est un fils encore plus monstrueux que.
Oui, Rimbaud le fils. Pierre Rivière a pris une serpe et Arthur Rimbaud a pris une plume. Mais peut-être que.
Il n'y avait pas de conflit parental dans l'affaire Rimbaud. Il y avait un conflit parental, mais il y avait une personne absentée. Alors c'était.
Une petite parenthèse, j'ai pensé à vous récemment. Dans mes journaux de jeune fille, en lisant le journal de la sœur, d'une des sœurs de Rimbaud, Vitalie.
Ah oui, oui.
Je ne sais pas si vous le connaissez, elle a tenu son journal pendant un mois à Londres, c'est 1874, quand elle est venue voir Arthur avec sa mère. Et elle a tenu un journal pendant un mois, un journal de jeune fille absolument effarée d'avoir quitté le couvent du Saint-Sépulcre où elle était, et elle n'aspire qu'à retourner au couvent du Saint-Sépulcre. Et à part ça, Arthur est absolument charmant.
Oui, oui, il les amène au British Museum, tout ça.
C'est un frère délicieux.
Très gentil.
Ne changeons pas des nouvelles de la famille Rimbaud devant vous. C'est pas le sujet de Pierre Rivière.
Non, je vais vous poser la question de Pierre Rivière parce que je pense que c'est par un autre biais, strictement la même question, vos réserves sur Pierre Rivière, posent à mon avis les mêmes problèmes de votre conception de la biographie que ce que vous disiez précédemment. C'est pour ça que je. C'est pas histoire d'introduire un personnage supplémentaire.
Oui, c'est assez difficile de raconter toute l'histoire de Pierre Rivière pour ceux qui la connaissent.
Je suppose que tout le monde
connaît l'histoire et le texte de Pierre Rivière. Effectivement, j'ai publié un texte critique assez dur sur la manière dont avait été fait le. J'étais pris d'une sainte impatience. Comme dit Jean-Pierre Péter à propos du crime de Pierre Rivière, moi c'est contre le livre que j'étais pris d'une sainte impatience. Et dans la mesure, en fait, je crois que c'est une question de genre. C'est-à-dire que j'avais acheté, moi, un livre de la collection Archives, qui se présentait comme un livre historique, dans lequel il y avait une préface de Michel Foucault qui déclarait qu'il allait donner un dossier et dans lequel il n'interpréterait pas. Et le dossier est fort bien constitué, et le livre lui-même est absolument passionnant. Donc je suis tout à fait ravi d'avoir pu lire ce livre. Mais simplement, le livre n'était pas conforme à une partie de son programme, en sens que les notes critiques qui suivaient le dossier sur l'affaire de Pierre Rivière, en fait, étaient, sous couvert de non-interprétation, étaient une interprétation extrêmement, d'ailleurs, violente, extrême, du cas de Pierre Rivière, et étaient en fait. Je m'attendais, au fond, mon erreur, c'est d'avoir cru que je lirais de la science, et ce que je lisais, c'était de la littérature, c'est ce que j'ai dit dans mon étude, et ça peut se prendre comme un texte littéraire, et dans ce cas-là, il faut l'annoncer, et c'est très intéressant, mais dans la mesure où c'est le discours, tout de même l'idéologie, le discours idéologique qui est au début, et tout de même, en gros, celui d'une discussion scientifique dans laquelle on stigmatise les erreurs des médecins et l'idéologie des médecins et des juristes du XIXe siècle, ce plaidoyer enflammé en faveur du crime de Pierre Rivière, que fait Jean-Pierre Péter, Jeanne Favret, un peu comme les surréalistes ont fait avec Juliette Nozière, etc., m'a, moi, énormément surpris. Donc, ma réaction était celle du décalage des genres et des intentions. L'autre point de mon désaccord, c'était, je dirais, la légèreté avec laquelle Michel Foucault avait lu les textes de Pierre Rivière et il n'y a pas passé beaucoup de temps et il a écrit de Chic une étude qui est un peu en marge du texte, disons. Voilà.
Je voudrais, enfin, on pourra peut-être y revenir. Mais je voudrais maintenant vous donner la parole à vous tous. Y a-t-il des questions dans la salle ? Florence Delay. Attendez le micro. C'est pour l'enregistrement, c'est pas pour la portée de la voix.
Si nous revenons à la très belle question posée par ce débat, qu'est-ce qu'une vie ? On s'en est beaucoup éloigné. Parce que est-ce qu'on peut penser que le journal de ces jeunes filles est une vie ? C'est le contraire d'une vie. C'est une obéissance à l'institution. Une vie est-elle une biographie, une autobiographie, ou une maille filée à une biographie qui serait la piste suivie ? Je veux dire, c'est ça la question que j'aimerais poser à Michon, parce que finalement, dans les abordages à des vies, entre guillemets, on a plutôt l'impression que c'est pas le bas, mais la maille qui file à quelque chose qui serait une vie.
Oui, c'est peut-être la maille qui file, qui donne une cohérence globale à la vie, effectivement. Mais quand même, moi, là, j'avais une sorte de... Je veux qu'une vie soit cohérente. Peut-être par la maille qui file, mais que cette maille lui donne sens. Qu'au moins, il y ait eu là quelque chose qui fasse sens dans une vie. C'est la fiction voragine, c'est idiot, mais... Ce qui m'intéresse à écrire, ce qui m'intéresse à faire, c'est donner sens peut-être par la maille, comme dit Florence Delay, je sais.
Mais
pas,
Pardon, il me semble qu'on n'a pas assez relevé le fait que vous avez vous-même dit, Pierre Michon, qu'au fond, il ne s'agissait pas d'autobiographie, mais de rendre justice aux autres, et que Vie minuscule n'était pas un prétexte à raconter des vies, mais que la vie était comme une dimension fondamentale, fondatrice, qui vous permettait d'avoir accès à l'autre, et à l'autre comme un sens.
Sûrement,
et vous avez parlé de rendre justice aux autres. Donc c'était tout à fait autre chose, et je pense que j'aurais aimé vous entendre parler plus longuement dans cette direction ou autour de ça.
Vous le faites très bien, tout à fait.
Je reproche.
La question qui se pose, c'est effectivement de savoir, pour reprendre la question de Florence Delay peut-être, c'est effectivement, y a-t-il cohérence en dehors du travail d'écriture lui-même ? Enfin, la cohérence, elle est dans l'écriture ou elle est ailleurs aussi, ou elle est...
Je pense que l'écriture la force peut-être un petit peu, mais elle doit bien être un peu ailleurs. Elle doit bien être ailleurs pour que l'écriture ne soit pas totalement une entreprise de forçage du sens ou de parodie ou d'imposture. Il faut bien qu'il y ait quelque part du sens pour que l'écriture s'en empare et porte au jour de façon plus flagrante.
C'est pas l'écriture seule qui sauve littéralement au sens
non,
fort
sûrement pas.
La vie minuscule.
Sûrement pas, parce que dans ce cas, ça serait pure gratuité ou pure... Non, je crois pas. Enfin, je voudrais que non.
Je voudrais répondre un petit mot à Florence Delay sur les journaux de jeunes filles, je peux. Pour dire que si ça a rapport avec le problème de la vie. La vie, l'expression « la vie » a l'air de prendre la vie en gros, mais on sait que cette vie en gros, cette vie globale, nous ne la vivons jamais qu'en détail. Et le gros est dans le détail. Et votre vie ne se présente à vous que dans le présent. Il y a une écriture du présent qui a trait tout de même à la forme vie. Et pour ces jeunes filles, la vie, elle n'est pas forcément quelque chose qui est... je pense que vous devez penser à la biographie comme un discours qui englobe des vies finies, mais des vies achevées. Mais la vie, elle est derrière nous, mais elle est aussi devant nous. Et ces textes travaillent la forme, le projet de vie à venir. Ce sont des textes qui sont perpétuellement affrontés à la biographie, mais simplement sous la forme du projet. Et c'est tout à fait passionnant de voir ces jeunes filles. Par exemple, j'ai étudié le journal d'une jeune fille qui passe son temps à faire son autoportrait. Et en fait, ces autoportraits sont tous des autoportraits projectifs qui dessinent des lignes de vie différentes. Elles jouent avec la forme de la vie. Et ce rapport avec la forme de langage de la vie n'est pas du tout une chose qu'on trouve exclusivement dans des biographies ou des autobiographies construites, mais dans l'écriture du présent, elle peut aussi bien se trouver. Ça n'est pas exclusif, si vous voulez. Et je rajoute une dernière chose sur les journaux de jeunes filles, c'est que Jean-Pierre Salgas avait annoncé que je devais demander quelque chose. Alors, je crois que j'ai oublié de le demander, mais enfin, c'est implicite, c'est tellement évident. Où est-ce qu'on trouve les journaux de jeunes filles? On les trouve soit à la Bibliothèque nationale, sous la cote LN27, dans les biographies individuelles. Souvent, d'ailleurs, ils ne sont pas intitulés journaux, mais ils sont intitulés justement « vie ». Je passe mon temps actuellement à lire des vies de petites filles tuberculeuses qui sont mortes et dont on raconte la vie de manière édifiante. C'est peut-être pas très gratifiant, c'est pas moderne, mais enfin, ça existait. Bon. Et on les trouve donc soit sous cette forme, et ça, ce sont des vies qui ont été en fait récupérées par une institution, qui sont utilisées. Les journaux sont montés à l'intérieur d'un discours biographique. Ou bien on les trouve chez vous, dans les familles, dans les greniers, dans les placards, où il y a des journaux d'arrière-grand-mère, d'arrière-grand-tante, qu'on conserve avec respect, qu'on ne lit pas et qui peut-être disparaîtront. Si donc vous voulez m'en signaler l'existence, j'en serais tout à fait ravi. Voilà, c'était l'appel.
D'autres questions? Madame à l'écharpe verte.
Oui, je voudrais poser une question à Pierre Michon. Vous avez écrit un livre peut-être moins connu, mais que j'aime beaucoup, qui est « Empereur d'Occident » et où s'entrecroisent deux vies. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu...
Non, je disais,
oui,
je donnais
Fata Morgana, effectivement. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu comment vous vous situez? Est-ce que vous l'avez écrit avant ou après Vie minuscule? Je ne me souviens plus très bien. Enfin...
Je l'ai écrit après Vie minuscule, mais c'est un livre que j'aime moins parce que c'était une sorte de... Je venais de finir Vie minuscule où je m'étais beaucoup impliqué dans tous ces personnages et je pensais que je ne pouvais pas sortir de cette espèce de milieu rural où j'avais, où j'avais vécu mon enfance et où il m'était facile, peut-être plus facile, de m'identifier à autrui. Et là, j'ai pris un sujet un peu pompeux, un peu péplum, qui est un truc de la fin de l'Empire romain, où j'ai essayé de faire fonctionner comme ça des vies à la fois ratées, pleines de sens. Mais je ne suis pas sûr d'y être bien parvenu dans ce livre-là. Ou je pense trop, sans doute, que l'écriture seule, pour reprendre ce que disait Salgas tout à l'heure, peut sauver des existences qui, sans cela, n'auraient qu'une infamie totale et sans une infamie, je veux dire, qu'autour de la maille qui file, il n'y aurait rien, file, enfin, oui, pour reprendre les termes de Florence Delay. Il ne faut pas qu'il y ait quand même que la maille qui file, il faut qu'il y ait...
Elle est discrète, là.
Comment ?
Elle est discrète, cette maille qui file dans l'Empereur d'Occident, mais elle est là et...
Non, tout le monde est complètement déjeté dans l'Empereur d'Occident. Il n'y a pas de... C'est les gens qui sont empereurs, mais il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus rien, quoi. C'est des espèces de barbares, comme ça, qui de temps en temps ont un pouvoir, on ne sait pas d'où il vient. Enfin, c'est... Enfin...
Merci.
D'autres questions?
Juste une question en passant. Quelle est le Rimbaud, je dirais, est une commande ou quelle est la part de commande dans le Rimbaud? C'est ça, parce que le Rimbaud semble programmé par V minuscule. Sur ça.
C'est une commande, mais c'est vrai que... Non, je n'ai pas écrit, en fait, le Rimbaud que je voulais écrire, parce que le Rimbaud que j'aurais voulu écrire, ça aurait été totalement dans la ligne voragine et ça a été fait 1000 fois. Je ne pouvais pas le faire. J'aurais dû prendre un petit poète ignoré du 20e et faire... En fait, ce que j'aurais dû faire, c'est prendre Philoxène Boyer ou Hippolyte Bayou
Banville. Le Rimbaud est un Banville. Enfin, ouais.
Non, c'est pas un Banville. Enfin, c'est plus proche d'un petit romantique, un petit romantique maudit comme Borel ou Boyer ou que de Banville. J'aurais dû faire ça plutôt que Rimbaud. Mais On m'a commandé le Rimbaud plutôt que Hippolyte Bayou. Alors j'ai pris le Rimbaud. C'est vrai quand même que Rimbaud était important pour dans les vies minuscules, puisque c'était une sorte de il a fonctionné aussi comme paradigme pour le narrateur des vies minuscules. Donc il aurait pu avoir sa place entre les deux paysans de début.
Un autre paradigme qu'on retrouve à plusieurs reprises dans vos livres, c'est le Gilles de Watteau, de Watteau.
Oui, ça c'est pas.
C'est un personnage qui me semble.
C'est vrai. Oui.
Présent dans tout.
C'est vrai, c'est la stupéfaction et le.
C'est une sorte de figure du narrateur, non?
Oui, c'est une figure du narrateur. C'est un narrateur. C'est un narrateur, mais qui se met juste devant ce dont il doit parler, ce qu'il ne faut jamais faire, en fait, quand on est un narrateur. Alors, c'est. Mais c'est quand même un personnage qui me plaît beaucoup comme figure du narrateur possible. Oui.
C'est-à-dire, quand vous décrivez Rimbaud avec les bras ballants, vous le décrivez en Gilles. Enfin, il y a les, oui. Les deux figures échangent leurs attributs.
Oui, oui, oui. Et puis en plus, Gilles s'appelle Pierrot, comme le narrateur est minuscule. Mais ça, c'est pour le chantage à l'espace autobiographique dont parlait je.
Donc vous êtes victime ce soir. Y a-t-il un maître chanteur dans la salle?
Oui.
Renaud Camus.
Bien sûr.
La question dont vous débattez étant peut-être plutôt qu'est-ce qu'écrire une vie que qu'est-ce qu'une vie, étant peut-être un peu vaste, je me demande si vous avez un sentiment quelconque sur une acception peut-être utopique de l'expression écrire une vie. Et pour formuler autrement ma question, est-ce qu'il vous semble concevable à l'un ou à l'autre ou aux autres que écrire une vie signifie appliquer la littérature à une existence, à sa propre existence, c'est-à-dire réaliser ce qui serait le contraire d'une biographie, ce que je me suis permis d'appeler de façon un peu dangereuse peut-être, une graphobie. La quelque chose ne serait nullement une phobie de l'écriture, ce qui serait une graphophobie, mais une vie écrite, c'est-à-dire où la littérature, où l'écriture serait aux commandes.
Qui est d'une certaine façon le projet du journal de Renaud Camus.
Oui, c'est pas une question, c'est un programme. C'est un.
C'était aussi votre sentiment sur le journal de Renaud Camus. Enfin, comment vous. Non, mais je parlais pas d'un sentiment d'appréciation. Je parlais de par rapport au projet.
Est-ce que la vie existe en dehors de l'écriture ?
Pierre Michon.
Ah non, moi je j'espère qu'elle existe en dehors de l'écriture. Non, pas du tout comme une quelque chose d'affronté à l'écriture. Je ne sais pas du tout une idéologie de la vie. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de ce qui peut faire sens dans une vie, ce que vous cherchez vous en écrivant le journal tous les jours. Enfin, même si c'est quotidien, c'est un peu la même chose. Vous l'essayez pour vous, mais.
Et auquel on peut procéder en même temps qu'on écrit son journal, c'est-à-dire à appliquer des principes d'écriture à ce que c'est que de vivre, c'est-à-dire de traverser une journée ou de traverser une année. Pour être plus technique et un peu déçu, peut-être des principes scripturaux, trouver à sa propre existence des rimes, des anagrammes, choisir ce qui est. Alors là, je m'enfonce dans une terminologie tout à fait d'une autre époque, surdéterminée littérairement pour vivre, pour exister, c'est-à-dire, pour prendre un exemple tout à fait banal, si l'on part en voyage, choisir plutôt la ville dont le nom a un rapport de rime à un autre nom qui vous est cher, ou un rapport anagrammatique, ou un rapport quelconque, mais en tout cas très spécifiquement littéraire, ou même scriptural. Excusez-moi encore une fois.
Sans doute peut-on le faire.
Donc faire par exemple un voyage lipogrammatique, c'est ça, hein? Organiser ses vacances sans la lettre E, hein? Bon, c'est un... Oui, bon, absolument. Hein? Ou sans voir aucune personne, d'ailleurs sans rencontrer aucune personne. Bon. Absolument. C'est un... Mais là, on est toujours dans le programme. Et pour la question, c'est est-ce que vous avez essayé? Et je ne parle pas de votre journal publié, mais là, c'est une manière de vivre. Est-ce que vous vivez comme ça? Vous avez essayé? Est-ce que ça...
J'essaye, mais il m'arrive de me demander si je suis seul.
Cela dit, juste un mot, si j'ai cité le journal, c'était à propos d'une autre chose. Il y a une utopie, je crois, dans le dernier tome du journal qui est brièvement décrite et qui était, en dehors de ce que vous décrivez et qui existe dans le journal, qui était l'idée d'une journée qui se passerait intégralement à l'écriture du journal sur cette journée même. Enfin, c'est à ça que je songeais quand j'ai parlé du journal tout à l'heure, qui était autre chose encore que la programmation anagrammatique de sa vie. Voilà. Daniel Auster.
Oui, il me semble que ce que Philippe Lejeune a parfaitement bien décrit, c'est en quelque sorte des discours biographiques qui s'écrivent sous un nom et qui s'écrivent pour répondre à un nom et à qui sont en quelque sorte, comme cela a été dit par ou suggéré par Florence Delay, qui sont déterminés et dictés en quelque sorte par ce nom. Et, on ne trouve pas chez Michon, et j'étais un petit peu surpris que, dès le départ, la conversation s'engage sur une espèce d'égalité entre le nom de l'auteur, le narrateur, enfin toutes ces choses qui sont précisément ce dont l'absence frappe dans ce qu'écrit Pierre Michon. Et je voudrais justement lui poser la question sur... Cette affaire de cohérence, car il est vrai qu'il y a dans l'œuvre de Pierre Michon la recherche d'une cohérence. Il a dit très justement tout à l'heure que Rimbaud pouvait servir de paradigme en quelque sorte, et dans tous ses livres, les personnages sont les uns les autres en position de miroir un peu fantomatique les uns par rapport aux autres. Est-ce qu'il n'a pas le sentiment que ce qu'il écrit s'écrit comme une, non pas sous un nom, mais sous quelque chose qui sera une figure, une figure absente, une figure qui se cherche, et cette cohérence dont il parle n'a-t-elle pas un rapport avec une figure, ou la figure, peut-être avec un grand F? En d'autres termes, est-ce qu'il n'y a pas derrière ces portraits, derrière ces personnages, quelque chose comme la figure du Christ?
C'est vraisemblable, oui. Enfin, mais en tout cas, une sorte de grande figure sacrificielle, comme ça, mais qui ne nous rédime plus. Enfin, une grande figure sacrificielle, comme l'ont été, enfin, puisque c'est vous qui en parlez, comme l'ont été Mallarmé ou Rimbaud, justement, ou des figures dont, dans un sens, la vie a bien été quelque chose comme une imitation du grand auteur qui n'existe pas, ou qui est
le grand
comme
autre grand auteur.
Enfin, le grand auteur, non, je parle pas du grand autre. Oui, c'est vrai, ça, mais c'est tellement peu justifiable, c'est tellement, dès qu'on dit ça, ça paraît tellement enflé, tellement peu sensé, enfin, tellement... C'est comme si c'était notre grand alibi, et en même temps, ce grand alibi, on y croit. C'est très... Je ne sais pas si je vous réponds, là.
D'autres interventions, monsieur
Loudan?
Non.
D'autres interventions? Non. Non. Eh bien. Oui? Non?
Non.
Bien. Il faut dire que Michon a dit quelque chose d'important à propos de, du grand alibi. Voilà. Mais vous pourriez préciser un peu ce que... Votre réponse a été très intéressante, me semble-t-il.
Elle était intéressante parce qu'elle était courte et elliptique. Parce que si j'essaye de l'expliquer, ça va être une catastrophe.
D'accord. Alors, dans ce cas-là, il nous reste à vous remercier.
Et à vous donner rendez-vous le 17 février.
Ah, le 17 février.
Avec Vincent Descombes.
Littérature et philosophie mêlée avec Vincent Descombes et Michel Deguy. Troisième étape de penser la littérature aujourd'hui.